Bonjour et bienvenue pour une nouvelle édition de 100% Foot, l'émission dédiée à l'Olympique de Marseille, au football sur Fréquence Mistral. Une nouvelle édition où on va évoquer l'actualité de l'Olympique de Marseille, cette belle victoire sur le terrain de l'Olympique Lyonnais hier soir pour le compte de la cinquième journée. Et pour débattre et animer cette émission, je suis en compagnie de mes deux acolytes, Monsieur Patrick et Franck. Bonjour.
Bonjour à toi, bonjour à toutes et à tous.
Et aujourd'hui, on accueille aussi un nouvel invité qui nous a déjà fait l'amitié d'être parmi nous, c'est Sébastien. Bonjour Seb.
Bonjour Thierry.
Voilà.
Bonjour Seb.
Bonjour Sébastien, à tous. Supporter de l'OM et habitué des tribunes du Vélodrome. On va évoquer donc l'actualité de cet Olympico qui a vu la belle victoire de l'OM en terre lyonnaise hier soir sur le score de 3-2 après un match assez fou. Et
c'est un euphémisme.
Voilà, donc déjà, premier mot, comment avez-vous vécu cette victoire et cette rencontre hier soir?
Ça a été un véritable bonheur hier soir. Je pense qu'on s'est tous régalés. Surtout vu la physionomie du match, se prendre un carton rouge au bout de 5 minutes et avoir cette combativité de cette équipe, ça fait très longtemps qu'on n'avait pas vu une équipe comme ça. Voilà.
Extraordinaire. Oui. Je n'ai toujours pas réalisé finalement la quintessence de la finalité de ce match, finalement, puisqu'il s'est passé tellement d'incidents, tellement de choses. Et c'est extraordinaire comme sentiment.
Et le truc qu'il y a, c'est que par rapport à l'année dernière, pour ceux qui se rappellent, l'année dernière où on a pas mal souffert, l'équipe, elle a une personnalité qu'il n'y avait pas l'année passée. Parce que l'année passée, un truc comme ça, tu en prends 6, quoi. Tu prends une valise avec l'équipe que tu avais.
Sur un match comme ça, un tel scénario avec un dénouement favorable, c'était inimaginable, impensable saison dernière.
La saison dernière, non. Et là, tu vois que tu as un entraîneur, parce que après. Les trois buteurs sont trois mecs qui sont rentrés, mais ça, c'est du hasard.
Trois joueurs qui sortent du banc.
Voilà, mais trois mecs sortent du banc, c'est un peu de la réussite.
Et en plus, quand on évoque la situation personnelle des deux premiers qui plantent.
Oui, et qui étaient destinés à partir, puis qui n'ont pas trouvé. Par contre, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, même s'il y a une part de réussite, il faut être honnête, c'est qu'il ne s'est pas dégonflé. Il a de suite recadré. Ce que tu vois, que l'entraîneur de Lyon, qui pourtant est très bon, n'a pas su faire, hein, quand tu voyais que tu passais pas, il aurait fallu qu'il fasse des changements plus tôt, et il n'a pas fait. Et lui, il a fait rentrer Rongier à la place d'Harry, tu dis qu'est-ce qu'il fait? Ben, il a fermé au milieu. À la mi-temps, il a mis deux hommes de couloir qui fermaient les couloirs. Je trouve qu'il a pas paniqué, il s'est très très bien adapté. Après, il y a une part de réussite, hein. Tu cadres et tu les mets au fond, eux ils mettent pas.
Il y a effectivement une part de réussite, mais je pense aussi que De Zerbi connaît la qualité de son effectif.
Oui.
Et j'ai trouvé que l'équipe n'avait pas du tout paniqué en jouant à 10, pourtant jouer 85 minutes à 10, que ce soit à Angers ou à Lyon, c'est compliqué. Et là, l'équipe a été posée tactiquement, techniquement, et c'est là que tu vois que tu as une équipe cette année, je pense, qui vaut vraiment le coup.
Oh oui,
et d'ailleurs, il a exposé en conférence de presse, à l'après la rencontre, il a dit qu'à aucun moment il a douté de son équipe, même si c'est vrai qu'il y a eu ce coup dur avec ses deux cartons jaunes à Léo Balerdi au bout de 5 minutes, qui ont vu les Olympiens réduits à 10 face à 11, mais bon. Malgré ça, il a toujours cru en son équipe et il était convaincu d'aller chercher la victoire sur ce match.
L'équipe le lui rend bien car ils sont plus que concernés par les événements à venir, les événements présents. Le groupe est plus que soudé. C'est vraiment un euphémisme une fois de plus. On a trouvé plus qu'une équipe. C'est absolument, n'ayons pas peur des mots, jouissif pour l'instant et ce n'est que le début.
Voilà. Après, il faudra confirmer, c'est sûr. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est que tu te rends compte avec les joueurs qui a fait rentrer, que tout le monde est concerné. Tu as pas des gars qui sont là, bon, ils s'en foutent ou ils ont pas. Voilà. Tout le monde y était, tout le monde s'est battu, tout le monde s'est accroché. Les mecs qui sont sortis, même s'il y a un problème au Wai, parce que voilà, il tire un
c'est plein. Vrai que Eli Wai qui a passé une mi-temps
voilà.
Dans le choix tactique on s'attendait peut-être à revoir Neil Maupay démarrer au coup d'envoi et finalement voilà. Roberto De Zerbi a redonné sa chance à l'ancien attaquant du Racing Club de Lens.
Oui. Et là, disons que après, c'est très dur. Tu te retrouves à 10, tu perds ton numéro 10 qui est ton passeur derrière toi. Tes ailiers descendent pour défendre parce que Greenwood et Luis Enrique, ils sont venus filer un coup de main derrière. Tu te retrouves tout seul devant, tu as trois défenseurs centraux, tu es à la rue. Quoi.
Par la force des choses.
Par la force des choses.
C'est vrai que le fait d'avoir modifié sa tactique assez rapidement avec le changement qui est intervenu à la 11e minute, la sortie d'Amin Harit pour l'entrée de Valentin Rongier, ça a un peu bouleversé contre modifier les plans de Zerbi et de l'OM.
Ça n'a pas désolé justement Harit qui était le premier justement
on l'a vu lors de la célébration à la fin de leur rencontre.
C'est partenaire justement c'est ce côté je dirais ben ce groupe est fabuleux parce que
tout le monde est impliqué, tout le monde est concerné.
C'est ça, l'idée en même temps, la demande de Zerbi qu'il est tout autant et qui est proche de son groupe et qui sont prêts à lui rendre justement qu'il attend.
Et là où tu vois que le mec, c'est un sacré entraîneur, c'est que le joueur qui fait rentrer l'ortie en galère, c'est le mec le plus intelligent dans le jeu, c'est Rongier. Le plus adaptable, le plus qui sait tout faire. Le mec
on connaît sa capacité de s'adapter et sa polyvalence qui peut lui permettre de...
Et ça, tu as fait rentrer un gars qui a travaillé et voilà. Et donc, c'est la preuve que le mec, il n'a pas paniqué, il n'a pas... s'est pas énervé sur l'arbitre, il est resté très calme. Et ça, je trouve que c'est très porteur de... Même si tu as de la réussite, il faut le dire.
Oui,
tu as beaucoup de place, tu as de la réussite.
Le faut bien.
Mais... Il a bien joué le coup et quand il sort Enrique et quand il sort Greenwood, il fait rentrer des attaquants, c'est-à-dire des mecs pour essayer de percuter devant.
C'est ça qui frappe effectivement parce que quand tu joues à 10 et tu te dis tu vas quand même... Alors allez, il y avait 1-0 je crois pour Lyon, semble-t-il. Tu te dis tu vas limiter la casse. Mais finalement non, parce qu'il a vu qu'il y avait des trous, il y avait l'opportunité d'aller marquer, d'égaliser, c'est ce qui s'est passé avec Lirola. Mais effectivement, on connaît le score à la fin du match. Donc, il croit en son équipe et il sait. Même nous, je pense, devant la télé, on a vu qu'il y avait des trous et qu'on pouvait en contre leur faire mal.
J'ai pensé sincèrement que la possibilité de revenir au score était déjà quelque chose de très bien. Mais on a senti vraiment, une fois de plus, que les joueurs étaient prêts et voyaient qu'il y avait la possibilité de faire mieux et de reprendre et de remettre le pied sur le ballon. Et finalement, nous avons vu comment tout cela s'est terminé.
Et après, c'est là que tu vois la qualité. C'est que même si je trouve que l'entraîneur de Lyon est excellent, je trouve que c'est un bon entraîneur qui fait...
On l'a vu quand même dans son travail la saison dernière.
Un 0, tu as 11 contre 10, tu dois garder le ballon. Tu dois charger au milieu, garder le ballon. Et eux, ils s'exposaient, ils continuent à attaquer. Et toi? Parce que le but de Lirola, c'est un contre. Et le troisième, celui du Lys Garcia, c'est des contres. Tu pars en contre et les mecs, il y a des brèches.
Le but qui permet à l'OM de prendre l'avantage à 2-1.
À 2-1. Et là, tu te dis, lui, c'est pas des ballonnés, alors que l'autre, il manque de vis, quoi. Il manque d'expérience. Exactement. Et pourtant, c'est un bon entraîneur. Et l'autre, il n'a pas tremblé, il a joué. Et donc, c'est une très bonne chose pour nous parce que je pense que mentalement, le match, il va marquer.
C'est dans la gestion et dans des événements et des coups durs durant la rencontre que Roberto De Zerbi a vraiment fait du coaching parfait.
Absolument, on voit que au-delà de son coaching, je dirais l'intelligence des joueurs qui ont compris tout à fait ce qu'ils devaient faire sans pour autant qu'on leur dicte véritablement quel devait être leur comportement.
Après, on n'est pas au sein du vestiaire, mais on voit quand même que ça travaille dur et ça travaille bien la semaine au cours de l'entraînement pour retranscrire tout ça.
J'ai l'impression qu'il y a une bonne ambiance entre eux. Je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression qu'ils s'entendent tous bien, que ce soit sur le banc ou pas.
Il y a vraiment une cohésion et une bonne osmose dans ce groupe.
Ils se comprennent, ils vont dans le même sens.
Voilà.
Après ce que disait certaines personnes qui traînent souvent la commanderie. Hein.
Même si c'est vrai que pour l'instant, il n'y a que 5 matchs. Le championnat a démarré depuis un mois, donc il n'y a pas lieu de s'enflammer. Mais c'est déjà super quand on compare avec la saison dernière.
Quoi. Mais il disait qu'il a un staff très nombreux et qu'un staff nombreux te permet de te répartir les joueurs. Tu as toujours un de tes adjoints qui parle à tout le monde. Tous les joueurs sont concernés parce que les mecs que tu as mis comme Luis Garcia, tu l'as mis dans le loft, tu voulais le vendre, tu n'as pas trouvé, tu le réintègres, moralement, le mec il pourrait te dire « Ah ouais, bébé, faire Kurzawa au Paris Saint-Germain, quoi. J'encaisse et je m'en fous. » Et le mec il est rentré, il a fait son match, il a marqué.
Comme Lirola. Hein.
Comme Lirola, mais il n'a jamais été mis au loft. Mais en fait, il était vendable. Quoi. Et donc, et ça c'est, paraît-il, parce que moi, je ne vais pas souvent à la commanderie, c'est qu'il a 8 ou 9 adjoints et que chaque...
Il est venu quand même avec un staff assez étoffé, voilà. Roberto De Zerbi. Il a voulu s'entourer des mêmes personnes avec lesquelles il travaillait déjà l'an passé à Brighton et au cours des saisons précédentes, que ce soit en Italie à Sassuolo ou en Ukraine avec le Shakhtar Donetsk.
Donc, il a pris les mêmes et donc ça te fait un groupe important qui te permet... parce que tu as 28-29 pros, il faut les gérer. Ouais. Il te permet d'avoir des gars qui sont en contact avec tout le monde, qui parlent à tout le monde, qui, voilà. Et ça, c'est...
De se sentir rejeté dans cette idée-là. Voilà, il y a un ensemble qui se crée véritable.
Quand tu regardes, il paraît, Manchester City, des gros clubs, le Real, tu as des staffs qui sont considérables. Et chacun, il a ses groupes, il a ses gars, tu as tes potes, même voilà, quoi. Et donc ça, ça fait partie de sa technique à lui. Tu as 8 personnes, quoi.
Donc, mais ça, c'est peut-être novateur au niveau de la France, parce que je n'ai pas le souvenir d'avoir vu des clubs français avoir des staffs aussi étoffés, avec quasiment des entraîneurs pour chaque poste et chaque joueur. Quoi. Là, on voit qu'il y a vraiment une méthode bien précise au niveau du travail de Roberto De Zerbi et de tout l'ensemble de son staff.
On doit laisser travailler, justement, qu'ils puissent, que ça, on sème les graines, qu'ils commencent, je dirais, à avoir des fruits, et j'espère qu'on va laisser avec la
patience. Ça paye et ça porte ses fruits.
Quand tu regardes en France, il y a un club qui est comme ça, c'est PSG.
Oui.
Où Luis Enrique, il a un staff pléthorique. Mais bon, tu gères les... Et tous les gros, ils commencent à avoir, et c'est pas pour rien, quoi. C'est-à-dire que c'est vrai que... On en revient à ce qu'on disait précédemment à plusieurs reprises. Le choix de l'entraîneur, Rabiot, il vient parce qu'il y a De Zerbi. Hein, il faut pas se faire.
Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs font.
Højbjerg et tout, ils viennent pour ça. Et même l'anglais qui marque le troisième.
Jonathan Rowe, qui arrive de Norwich City.
Voilà, il te dit je suis venu parce qu'il y avait De Zerbi. Et tu professionnalises, tu passes un cap qualitatif. Dans le management, l'organisation, et hier, ça nous a particulièrement servi. Ouais.
Alors, voilà. Comme dit Thierry, c'est vrai qu'on n'est qu'à la cinquième journée. Après, mais honnêtement, c'est
ça demande confirmation sur du long terme. Mais c'est vrai que depuis tout ce qu'on voit depuis le début de la saison, depuis un peu plus d'un mois que le championnat a commencé.
Ne mettons pas la charrue avant les bœufs.
C'est plutôt emballant et réjouissant pour la suite des événements.
Moi, cette année, je vais un peu regarder le PSG, pas en championnat, mais en Ligue des Champions, parce qu'il faudrait qu'ils aillent le plus loin possible, finalement, puisqu'on va les laisser traîner en Coupe
d'Europe. Peut-être ça, ils vont laisser des plumes et des forces dans cette compétition.
Peut-être jouer un élément
important dans la conquête du titre de champion de France.
Disons qu'il y a un journaliste sur l'équipe TV, j'ai vu, qui a dit si Paris joue à son niveau, ils seront champions, ils ont un meilleur groupe, ils ont une meilleure équipe. S'ils font une erreur, il disait il y a l'OM derrière, il y a Monaco aussi qu'il ne faut pas oublier. Mais Monaco aussi joue la Ligue des Champions.
Après, juste comme pour rebondir à ce que disait Sébastien, on sort d'une semaine européenne et le PSG, on l'a vu, qui a eu toutes les peines du monde à battre Girona en Ligue des Champions cette semaine, a été accroché samedi soir en Ligue 1 au stade Auguste Delon face au stade de Reims après avoir quand même
été mené. Dembélé, il est très, très, très... On parlait de la Lacazette à Lyon, mais Dembélé...
Et c'est vrai que d'ailleurs, à la fin de la rencontre, les médias et les journalistes présents sur place ont posé la question à Luis Enrique, l'entraîneur parisien, et sur le buteur, l'identité du buteur. Là, en l'occurrence, c'était Ousmane Dembélé. Mais bon, après, on sait que il y a Randal Kolo Muani, il y a Bradley Barcola qui est susceptible de marquer dans cette équipe de Paris. Mais bon.
Mais c'est vrai qu'on peut dire ce qu'on veut. Un mec qui te met 40 et quelques buts dans la saison, même si l'année dernière, Mbappé n'a pas été très bon, hein, parce que je pense qu'il est mal utilisé. Il te met tes 45 buts dans l'année, tu ne le remplaces pas, ils n'ont pas remplacé. Et comme ils ont perdu Gonzalo Ramos, qui est le seul vrai avant-centre de surface, ils se retrouvent avec des faux numéro 9. Moi, ça me rappelle l'équipe d'Espagne, quand Luis Enrique en était l'entraîneur, où tu as 80% de possession contre le Maroc en quart de finale à la Coupe du Monde. Et que tu prends un but à la con sur une contre, ballon en l'air, le mec il saute plus haut et il marque.
C'est la politique au football.
Et tu te fais sortir parce que tu n'arrives pas à marquer.
Complètement.
Et ça, Paris, moi j'ai vu le match contre Gérone. Gérone, c'est pas extraordinaire, hein.
Et on l'a vu encore ce week-end, ils ont été battus en championnat en Liga face au FC Valence. C'est vrai qu'ils ont surperformé la saison dernière pour terminer sur la troisième place du podium dans ce championnat espagnol. Mais c'est vrai que cette année, il y a eu beaucoup de modifications, beaucoup de changements et. On voit que c'est plus du tout la même équipe et ils sont en difficulté dans ce championnat espagnol.
Il doit y avoir pour chaque club français ou de Ligue engagé en Ligue des Champions, justement. Chaque match de Ligue des Champions est un match de Ligue des Champions, véritable.
Il faut savoir dissocier les compétitions européennes.
Justement, mettre une équipe bis, comme ça peut être fait sur les années précédentes, dans ces compétitions-là, je pense qu'aucune équipe pourra se le permettre cette année en Ligue des Champions.
C'est-à-dire que le système avec...
Et là, avec la nouvelle formule, cette nouvelle configuration de Ligue des Champions, ça va jouer, ça va être déterminant pour la suite.
Si tu veux éviter les 16e de finale, il faut être dans les 8 premiers. Alors que moi, je me rappelle, il y a encore l'année dernière, le 5e, 6e match, tu avais 4 victoires. J'avais vu Toulouse contre Liverpool. Alors, c'était en Europa League. Toulouse-Liverpool, tu regardais l'équipe, tu disais, qui c'est ? Il y avait plein de jeunes, Salah, tout ça, ils étaient sur le banc. Ils ont fait rentrer, mais trop tard.
On ne reconnaissait pas cette équipe de Liverpool menée par Jurgen Klopp.
Voilà, le mec, 4 matchs, 4 victoires, il a fait tourner. Là, il faut...
Il n'y avait aucun titulaire présent sur la pelouse du stadium.
Et donc, du coup, là, tu vas être obligé, et ça peut laisser des plumes.
Il y a la gestion du championnat pour chaque équipe engagée en Ligue des Champions ou Europa.
Et c'est un vrai problème, et c'est vrai que... en Ligue des Champions, moi, je les ai trouvés faibles. Je pense, Sébastien, c'est ce que tu voulais dire.
Ça a été, oui, moi, j'ai vraiment regardé le match parce que... Mais là, honnêtement, ça a été même faible. C'est le mot gentil. Je dirais catastrophique parce que pour une équipe comme le PSG qui est susceptible d'être au moins dans le dernier carré, ça a été catastrophique. Alors, c'est le premier match. On ne va pas non plus... Mais vu ce qui arrive derrière, je me dis...
Parce que c'est vrai que quand on regarde le calendrier du PSG en Ligue des Champions, il y aura des adversaires d'un autre calibre dans les semaines à venir.
Le championnat peut être justement contraire à leurs attentes.
Voilà. Et c'est sûr que là, ça va être... Ils ont un banc, hein, mais ils auront un problème. Je crains plus pour Brest ou pour Lille où là, ils vont avoir des matchs hyper durs, ils vont avoir devoir jouer le championnat derrière. Ça va être compliqué. Hein. Tu tiens l'énergie le premier match. Hein.
Ils n'ont pas de banc.
Et surtout que là, il me semble que j'ai vu qu'il y avait deux joueurs qui étaient blessés et qui risquaient d'être indisponibles pour quelques jours. Désiré Doué, qui s'est blessé samedi à Reims. C'est l'international coréen Lee. Voilà, Kangin Lee, qui est sorti aussi lors du match face au stade de Reims samedi soir. Donc c'est peut-être un coup dur supplémentaire pour les hommes de Luis Enrique pour la suite de ce championnat et de la Ligue des Champions.
Et d'ailleurs, pour rebondir là-dessus, sur ce que tu dis, Thierry, ce week-end, on a Rodri, l'Espagnol de Manchester City, et Ter Stegen, l'Allemand, le gardien.
Oui, le gardien du FC Barcelone.
Ils se sont fait les croisés tous les deux, semble-t-il.
Saison terminée.
saison ouais, ouais. terminée.
Ben ouais, Marc-André Ter Stegen s'est blessé gravement face à Villarreal. Ouais, et...
Sur une action anodine, il sort sur un ballon, il retombe mal. Et donc, ça veut dire aussi que les joueurs qui font plein de matchs, hein, qui jouent la Ligue des Champions,
les plaintes des uns et des autres.
Il y avait une grosse polémique avant ce début de compétition européenne sur le calendrier surchargé avec ce championnat d'Europe. Qui est arrivé, et puis bon, là, les championnats, la nouvelle formule de la Ligue des Champions et le championnat du monde des clubs qui arrive en fin de saison, au mois d'août prochain.
Peut-être résumer sur la base, plus de profits, évidemment, pour certains, mais les footballeurs, ce sont les premiers acteurs. Donc si leur santé, évidemment, justement, va être impactée par ce système-là, à nouveau, et ces multiplications de matchs, il va falloir trouver une solution.
Parce que je pense qu'on l'a vu l'année dernière aussi. Pardon, je te coupe.
Vas-y, Sébastien.
Tout vient d'une préparation physique du départ. On l'a payé l'année dernière, hein, on va pas en reparler de la saison dernière. Voilà. On a traîné le boulet toute la saison, que ce soit avec les résultats et les blessures. Là, avec De Zerbi, j'ai l'impression que. On a vu d'ailleurs hier ce qui s'est passé.
Oui, tenu.
Tenir à 10 une équipe à 11 comme Lyon,
pendant quasiment l'intégralité des rencontres. Hein, parce que je crois que c'est la première fois, il me semble, qu'une équipe réussit à s'imposer après avoir été réduite à 10 aussitôt dans une rencontre. On a rarement vu. Une expulsion intervenir aussitôt dans un match, et là, en l'occurrence, c'est deux cartons jaunes de Léo Balerdi après la première et cinquième minute.
On ne va pas revenir sur les polémiques, on pourra toucher un mot tout de même.
Mais... Non, mais bon, c'est vrai qu'on peut quand même évoquer l'arbitrage de M. Bastien. Je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à dire sur l'arbitrage.
C'est sûr qu'à mon avis, un bon arbitre, il a mis un carton à la 24e seconde sur la première intervention, qui effectivement est indiscutable. Ouais. La faute est liée, il n'y a rien à dire.
Le carton est
sur la deuxième intervention, où en fait les deux se tiennent, tu vois les images, tu vois que Lacazette il le tient, il lui coince même le bras et tout.
Ça reste discutable.
Tu fais, monsieur, c'est fini, prochaine fois vous sortez. Sortir le deuxième directement comme ça, sans me prévenir.
C'est un manque de pédagogie. C'est fait exprès.
Par rapport à l'arbitrage, je voulais vous faire réagir sur ces images. Je pense que ça ne vous a pas échappé lors de la retransmission sur DAZN. Le coup de gueule, le coup de sang de Mehdi Benatia, le conseiller de Pablo Longoria, à la mi-temps, à l'encontre de M. Bastien et de l'ensemble du corps arbitral de cette rencontre.
Il a été assez bruyant et tonitruant dans son exclamation qui a été quand même... On peut en discuter.
Vous ne pensez pas qu'il est allé peut-être un petit peu trop loin dans ses propos ?
Non, parce qu'au moins, je vais être un peu vulgaire, mais au moins, il y a quelqu'un qui a des coronasses. Ça fait longtemps qu'on attend ça à Marseille. Au moins, au bout de la cinquième journée, il a dit ce qu'il pensait.
Sur le même arbitre. Mon opinion, c'est que, d'une part, il y a le côté « je plais au public ». En ce moment, il est bien en cours parce qu'il a fait venir Rabiot, il a fait un très bon recrutement. Donc
il a pas mal été critiqué depuis son arrivée par rapport au recrutement l'hiver dernier lors du mercato de décembre.
Là, il est bien de décembre. Il est bien vu. Mais je remarque que De Zerbi a dit, en gros, il a dit « Balerdiste, il s'est fait piéger comme un con, le carton, il n'y a rien à dire, je ne dis rien ».
Longoria, c'est vrai que je pense que
tu l'entends pas, et le troisième, il faut bien qu'il y en ait un qui aille au feu.
Alors, on peut dire que chacun est à sa place.
Mais il y avait quand même des motifs d'inquiétude et d'appréhension, parce qu'on se rappelle que Benoît Bastien était déjà à l'arbitre de ce fameux Lyon-Marseille l'année dernière, qui a vu la défaite de l'équipe de l'OM.
À Benatia, le match précédent, où il y a eu une expulsion qui était totalement inédite.
Il faisait allusion aussi à l'expulsion de Derek Cornelius la semaine dernière face à l'OGC Nice au Vélodrome.
Il y a une expulsion sur deux matchs, de décisions totalement qui peuvent être arbitraires, qui peuvent être discutables, plus que cela. Mais son emportement, évidemment, Sébastien, je suis d'accord avec toi, on peut le dire, il n'y a pas peur de l'espagnol ni du français, il a sorti ses couilles. Mais bon, pour se faire entendre quelque part, non, mais le terme qu'on a pour ça reste humain, et il n'y a aucune méchanceté en cela. Non, simplement, il aurait pu s'exprimer comme moi, d'une autre manière, et avoir cette communication. Alors, c'est un coup, évidemment, qui pourrait impacter l'arbitrage, les prochains arbitres qui viendraient arbitrer Marseille, en se disant oui, bah, peut-être après, pas trop l'énerver.
Le problème.
Et là, on scrutera avec attention la désignation de l'arbitre pour la prochaine rencontre et ce déplacement au stade de la Meinau la semaine prochaine face au Racing Club de Strasbourg. Hein.
J'aimerais pas être à sa place.
Mais bon.
Non, mais après.
Patrick.
Après le match, donc après DAZN, 5 minutes après, on a basculé sur l'équipe.
La chaîne équipe.
Et où on a vu un journaliste, je ne sais plus lequel, qui a dit, il rappelait que l'année dernière, River, le président de Nice, il y avait eu 2-3 contestations sur 2-3 matchs, il a poussé une gueulante et ça s'est calmé. C'était la grande tactique de Jean-Michel Aulas qui hurlait à mauvaise décision arbitrale et chaque fois il avait l'arbitre pour lui. Mmh. Et donc,
mais c'est vrai qu'on l'a vu hier dans les tribunes du Groupama Stadium aux côtés de Mehdi Benatia, Fabrizio Ravanelli et Pablo Longoria. Et il avait quand même une tête assez déconfite, ça en disait long sur son dépit. Mais bon, maintenant qu'il n'est plus président de l'OL... Peut-être qu'il a moins d'influence auprès du corps arbitral.
Oui, mais le problème que tu as, c'est que on parlait de l'expulsion de Cornelius. L'OM a demandé que le carton rouge soit annulé.
Et finalement,
parce que l'arbitre a dit à la télé qu'il s'était trompé. En fait, moi, j'ai pas vu. J'étais au stade.
Oui, ça m'a notifié sur son rapport.
Les copains qui l'ont vu.
Mais après, ils ont essayé de s'appuyer sur les images du diffuseur qui était bien, s'il me semble.
Bien, oui. Où le mec, après, il dit « J'ai peut-être été un peu... » Et mon gendre me disait « Tu vois la tronche, tu vois, quand il se rend compte que le mec, il a déjà un jaune, il change de figure. »
Oui, le dire publiquement, c'est bien, voilà. Mais le notifier sur le rapport...
Tu as demandé seulement, il ne notifie pas sur le rapport, mais il le dit à la télé. Donc, ils ont dit, la commission de discipline, non, on maintient...
Finalement, le carton était maintenu le défenseur canadien a raté le match de Lyon hier soir. Match.
Donc, à la limite, tant mieux, ça s'est bien passé.
Bon, mais même si on a vu que le retour de Léo Balerdi, malheureusement, ça s'est soldé par une expulsion, mais bon.
Moi, ce qui me surprend, c'est qu'un Argentin, il se fasse piéger. Oui, parce que l'autre, il le piège. Hein.
En plus, on parle d'un joueur qui est quand même titulaire à l'Olympique de Marseille depuis plusieurs saisons, avec différents entraîneurs.
Je ne sais pas, la décision donc, du carton rouge et même de la faute. Je ne sais pas ce que tu en penses, Sébastien, par exemple.
Moi, le deuxième,
je trouve qu'il y avait peut-être faute pour nous, même, parce que moi, je vois plutôt une faute de Lacazette que de Balerdi.
Là, on ne parle même pas de pédagogie.
Ça reste discutable.
Ouais. Mais je trouve que le deuxième, il est quand même sévère. Parce que
je pense que tout le monde est unanime pour dire que c'est vraiment une expulsion et un carton rouge sévère.
Normalement, un bon arbitre, il t'appelle, il te dit « Monsieur, vous avez déjà un jaune, c'est terminé.
Ouais. »
C'est terminé. Voilà. Ce que l'autre n'a pas fait à Cornelius, parce qu'il ne s'est pas rappelé qu'il y avait mis...
Et surtout, si tôt dans la rencontre. Voilà, parce que là, on sait que Léo Balerdi a pris un jaune au bout d'une minute de jeu.
24 secondes, secondes 4 et demi, quoi, je veux dire.
Donc là...
Et il fait deux fautes, il prend deux jaunes et il
sur une entame de match, se retrouver déjà en infériorité numérique pour l'OM, c'est...
À quoi sert la VAR? Parce que moi, j'aimerais bien savoir dans le bus des autres arbitres.
Techniquement, on va t'expliquer qu'ils n'ont pas le droit, parce que c'est pas un rouge direct. C'est un second jaune, donc ils n'ont pas intervenu.
Ça reste à l'interprétation de l'arbitre. Il y a faute.
Voilà, les mecs qui peuvent se parler.
Là, il y avait Nicolas Rainville qui était dans le bus de l'assistance vidéo hier soir. Ouais. Et est-ce que ça aurait pu éventuellement changer le cours des choses pour cette expulsion à...
Techniquement, deuxième, un jaune, il n'a pas intervenu. Voilà. Donc, après, moi, ce qui m'a choqué, qui me fait critiquer l'arbitre, c'est qu'en première mi-temps, il fait ça, et en seconde mi-temps, Lacazette, il disjoncte à un moment, il prend un jaune, et après, il refait une faute et tout, et là, il le met pas.
Mais c'est lui qui met un coup sur roulis, en plus, je crois, à un moment donné.
Oui.
Ça, hein. Et là, on fait rien.
Et là, l'arbitre, il dit rien, quoi. C'est-à-dire, tu as fait.
Alors, je sais pas, il y a deux poids, deux mesures concernant les sanctions et les décisions arbitrales.
Non, mais après, moi, je pense que j'ai pas regardé, mais ce matin, un copain me disait qu'il a regardé la chaîne L'Équipe, ils le font en radio, ils commentent le match. Il y avait Njimi, l'ancien arbitre.
Oui, Saïd Njimi, qui est consultant pour la chaîne L'Équipe.
Sur le premier carton, il a dit, je pense qu'il veut calmer, il a peur que le match soit dur.
Il a voulu s'imposer de suite et être le plus autoritaire pour pas que la rencontre dégénère.
Tu t'imposes le premier, parce que le premier, la faute,
l'arbitre
elle est très nette.
Mais il a pas soutenu.
Le second, tu dis, monsieur, prochaine fois, vous sortez.
Moi, je pense. Voilà. Après, il y a le pénalty aussi. Hein, on peut en parler aussi.
Est-ce qu'il y a hors-jeu, est-ce qu'il n'y a pas hors-jeu ? La main est liée, mais est-ce qu'il y a hors-jeu, est-ce qu'il n'y a pas hors-jeu ?
Oui, c'est vrai, ce pénalty que Jeronimo Rulli repousse juste avant la...
Heureusement, mal la tiré.
Alors, on peut en discuter, parce que moi, pour moi, un pénalty raté, c'est un pénalty
qui est mal tiré.
Là, par contre, un pénalty arrêté comme ça avec Rulli, alors, je veux bien que ça mal tiré, mais je pense que cette année, on a enfin un gardien. Je veux pas critiquer Lopez, qui est plus là, mais on a enfin une sécurité derrière.
C'est la bonne pioche et la bonne trouvaille sur le poste de gardien de but, qui est si important maintenant dans le foot moderne. Je pense que c'est vraiment ce qui faisait défaut à l'OM depuis le départ de Steve Mandanda.
Il tranquillise également sa défense.
Il est rassurant, ce gardien,
voilà,
on le voit.
En même temps, on sent qu'il donne une impulsion. J'ai vu replacer Rongier à plusieurs reprises, même intervenir, il faut lui prendre le ballon. Non, on ne va pas jouer directement, je vais dégager. Voilà, il commande sa défense.
Oui, et puis en plus, véritablement. C'était le remplaçant, mais il est champion du monde.
Il a quand même une certaine expérience. Voilà. Ça fait un petit moment qu'il est dans le groupe de cette sélection argentine.
C'était le titulaire aux Jeux Olympiques. Voilà, donc c'est quand même un gardien expérience qui est très bon au pied en plus, qui a un très bon jeu le pied. Ce n'est pas un Argentin pour rien. C'est effectivement, à 4 millions d'euros, c'est une excellente recrue.
C'est vrai qu'il est numéro 3 en sélection argentine. Donc... derrière Dibu Martinez d'Aston Villa.
Moi, je le mettrais même au-dessus de Martinez. Moi, Martinez, je trouve que...
Après, ça, c'est une autre question. On n'est pas dans la tête de Lionel Scaloni, le sélectionneur argentin.
Très sincèrement, cette année, puis on a oublié.
Pour changer la hiérarchie au niveau du poste de gardien dans cette sélection. Voilà. Mais c'est vrai que s'il continue comme ça, avec l'OM...
Moi, je trouve que cette année, on a oublié Carboni qui va arriver aussi.
C'est vrai, justement, un petit mot concernant les absents. On a vu qu'il y avait Derek Cornelius qui était suspendu. Quentin Merlin qui s'est blessé en sélection en espoir et qui est toujours malheureusement absent.
Ça, c'est dommageable.
Et c'est vrai que Valentin Carboni, après être resté sur le banc contre Nice, n'a pas disputé la moindre minute hier soir lors de ce match.
Voilà les problèmes que nous avons à présent. Il va falloir justement que chacun trouve sa place dans cet effectif et que personne ne rechigne à aller sur le banc. Et il est vrai que Carboni ne s'est pas encore exprimé comme nous l'attendons, mais il y a tellement de joueurs qui vont faire justement de la place pour d'autres. L'entente continue à être cordial et on va y arriver.
Après, la concurrence sera féroce, messieurs, j'ai l'impression. Après, ça va être compliqué pour se faire une place dans ce 11 titulaire de Roberto De Zerbi le jeune Argentin.
Mais le truc, c'est que quand tu regardes le match, il a fait rentrer des gars qui correspondaient à la situation. Et Carboni, c'est un joueur de ballon, c'est un 10. Donc il a mis des mecs à l'ancienne. Il a mis des mecs rapides, Ro qui est très rapide, et Mopé qui est l'emmerdeur qui te lâche.
On le voit. Je veux dire le troisième but qui offre la victoire à l'OM, c'est quand même.
Les mecs ils y vont et plutôt qu'un joueur de ballon, le but n'était pas de garder le ballon, de circuler, c'est que 10. Le but était de laisser venir et de jouer des contres. Donc, il a préféré, tactiquement, les mecs rapides. Et c'est vrai que l'anglais, c'est typiquement, Rose, c'est typiquement le mec qui parcelle en pointe et qui fonce. Carboni, c'est plus le technicien argentin. Par contre, il est fort. Et quand il se sera intégré, ça sera... C'est un choix, c'est-à-dire qu'il a... Il a Harit qui travaille... Carboni qui a un créateur, il a des joueurs qui ont des profils un peu différents et qui peuvent te permettre de... Moi, hier, j'ai bien apprécié Luis Enrique et Greenwood aussi. Quand tu es à 10, les mecs, ils reculent, ils défendent. Ils travaillent.
Ils travaillent.
Et Rowe et Mopé, ils ont travaillé.
Il y a des joueurs qui sont capables de se sacrifier dans ce genre de situation. Mais c'est vrai qu'on l'a vu peut-être moins à son avantage que... Lors des trois premiers matchs, Mason Greenwood, mais c'est vrai, c'est quand même un joueur qui est important dans le dispositif.
Il a bossé, puis il a pris des coups.
Il a pris des coups et puis il fait peur. C'est-à-dire que les mecs, tu ne le lâches pas, lui.
C'est vrai qu'à chaque prise de balle, les joueurs qui sont sur lui, c'est...
Quand tu regardes...
Harry... Il mobilise plusieurs joueurs, il cristallise la tension, donc forcément, ça libère des espaces pour ses coéquipiers.
Il ne se démonte pas, hein, il continue, même s'il il échoue sur certains contrôles, c'est très rare de sa part, mais en tout cas, il est tellement concerné par ce qu'il fait, qu'il est prêt à défendre, à relancer, à faire des efforts que peut-être il n'a jamais pu faire jusqu'à présent. Mais en tout cas, lui aussi, il va être formidable.
Et quand tu regardes le remplacement, Harit, c'est celui qui est le plus léger dans les duels. Moi, ce que je lui reproche, pourtant, c'est un mec que j'aime bien. Puis, n'oublions jamais qu'il a été blessé, il s'est fait les croisés pour le club. Et ça, quand même, il ne faut pas l'oublier. Mais il est léger dans les duels, à l'épaule, les trucs comme ça. Tu as mis un travailleur combattant, Rongier. Et quand il a fait les remplacements, plutôt que le petit argentin dribbleur fin joueur, tu as mis l'anglais, c'est un guerrier, quoi. Le mec, il va à la guerre.
Et là, vous...
Et là, vous pensez, par rapport à la configuration du match et la physionomie, il y a peut-être espoir de le voir jouer quelques minutes au stade de la Méno pour la prochaine journée face à Strasbourg.
Pourquoi
le
jeune... Ah oui, c'est une éventualité que je n'écarte pas
si,
du tout.
Si tu
On ne sait pas, on ne connaît pas encore les plans de Roberto De Zerbi.
Si tu mènes au score, pardon. Un 10 qui va reculer un peu et qui va distribuer sur tes ailiers, qui va donner des ballons, c'est bien si tu mènes. S'il faut aller à la guerre, au combat, peut-être que tu mettras Koné. Koné, il le sort parce qu'il revient de blessure. Donc il est peut-être physiquement pas.
Un peu plus court. Ouais. Après Carboni.
Il a joué son premier match, ses premières minutes la semaine dernière face à Nice, Koné. Pour lui, il faut le remettre dans le bain, mais progressivement.
En même temps, il s'est vite fait sa place. Et je dirais même qu'il est possible de l'utiliser dans plusieurs secteurs d'activité, quoi, du milieu à quelque chose de plus frontal dans l'attaque.
Il paraît, d'après la Provence, que De Zerbi le verrait plutôt en 10.
Ouais. Après, ça va être un casse-tête pour le technicien italien, puisqu'il va avoir le retour d'Adrien Rabiot, qui est peut-être un peu court physiquement, lui qui n'a plus joué depuis plus de 2 mois et cette élimination en demi-finale de l'Euro face à l'Espagne avec l'équipe de France.
Par exemple, tu peux envisager, après je ne sais pas ce que fera De Zerbi, il est...
Il y a pas mal de solutions, il y a pas mal d'options qui s'offrent à lui.
Hier, faut pas se précipiter.
Je rigolais, je regardais l'équipe, il y avait un des journalistes, celui qui est stéphanois, là, Mémon.
Ah, Timothée Mémon, l'ancien journaliste de RMC.
À la mi-temps, on parlait, on n'a pas compris son coaching. À la fin du match, tu as compris pourquoi
je pense que
toi, tu es journaliste. Voilà.
Après, il faut savoir dissocier la partie journalistique de la partie tactique.
Lui, il disait... qui voit Koné en 10. Donc, tu peux avoir une charnière, les deux axiaux, Højbjerg-Rabiot. Alors, en termes d'expérience, de laisser venir, tu laisses venir. Et Koné qui joue en 10 à l'extérieur où tu es plus dans le combat. Et au Vélodrome où il faut faire la passe laser, peut-être plus Carboni qui est un technicien ou Harit. Voilà.
Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, en fait.
Mais on verra les choix de Roberto De Zerbi, que ce soit ce déplacement à Strasbourg la semaine prochaine ou la réception d'Angers dans un peu moins de 15 jours au Vélodrome.
Moi, je trouve, Thierry, que tu es un peu léger au Vélodrome. Est-ce que tu n'as pas la peur du Vélodrome? Enfin, moi, je trouve que tu es plus à l'aise à l'extérieur qu'au Vélodrome, même si la victoire est là.
Mais c'est vrai que quand on voit les prestations à l'extérieur sur les 3 premiers matchs de la saison, que ce soit tant à Brest, à Toulouse et hier soir à Lyon.
Oui, il ne le faut pas face à Reims, mais il est vrai que...
Non, mais même, je trouve que tu gagnes, attention. Contre Reims, mais je trouve que tu es plus emprunté, on va dire, au Vélodrome.
Après, on a vu pour la réception de l'OGC Nice la semaine dernière au Vélodrome, on a quand même... peiné et eu pas mal de difficultés.
Ils étaient très bien en place. Ils ont su justement tirer les ficelles de leur...
Et on l'a vu encore là ce week-end avec ce match ouverture vendredi soir. Les Stéphanois qui ont explosé en plein vol à l'Alliance Riviera face à cette équipe niçoise.
Mais il y avait quand même de la belle allure.
Après, hormis le fait...
Donc en fait, il faut quand même prendre en considération cette victoire qui a été certes difficile, mais obtenue...
Hormis le fait qu'on avait déjà discuté une fois ou deux, que quand il n'y a pas Balerdi dans la relance, t'es centraux. Moi, j'ai trouvé Brassier au Vélodrome contre...
Mais c'est vrai, juste un petit mot concernant la compo d'équipe de départ.
Sur Brassier.
Ouais, voilà, Brassier, tu sens qu'il est... pas en confiance.
Ouais. Mais là, par rapport au choix de Roberto De Zerbi au coup d'envoi,
quelle bonne choix de mettre Gondombia, justement.
Le fait d'avoir replacé Liam Brassier sur le côté gauche et d'avoir mis Geoffrey Gondombia dans l'axe aux côtés de Léo Balerdi, c'était un choix quand même assez judicieux.
Brassier a récupéré sa place de Brest. Mais moi, je suis un peu d'accord avec toi. Je trouve Brassier très léger pour moi.
Dans la relance, il me semble qu'il a peur.
Il est très bon sur l'homme.
Par contre,
c'est vrai qu'il a fait une très grosse saison avec le Stade Brestois l'année dernière, mais on voit qu'il quand même il a quelques difficultés dans ce début de saison, même si pour l'instant De Zerbi lui maintient sa confiance.
Sur le truc, c'est qu'il joue. En fait, tu joues à 4 arrière, mais tu en as 3. Tu en as un qui, alors c'est Merlin normalement à l'arrière gauche.
Mais là, pour l'instant, on sait qu'il est blessé.
Voilà,
donc
contre Nice, comme hier soir. C'est le côté droit, donc c'était en l'occurrence le Panaméen
Murillo
qui devait le faire. Et donc, du coup, arrière-gauche, tu mets un pur défenseur. Donc, c'est pour ça qu'il met Brassier. Et Kondogbia, contre Nice, quand tu prends la fin du match après l'expulsion de Cornelius, tu as Kondogbia qui redescend central et tu as Højbjerg qui revient en troisième centrale pour relancer le ballon.
Quel régulateur.
Donc voilà, et donc Kondogbia, il est bon pour ce genre de truc, c'est-à-dire il recule. Et donc je pense que tactiquement, le mec, il a percé son équipe. Moi, par contre, ce que je pense au Vélodrome, c'est pas sympa ce que je vais dire, c'est que ce qui t'a tué, c'est ton avant-centre. Voilà, c'est-à-dire que Wally,
c'est léger. Pour la réception face au Stade de Reims lors du premier match.
Parce que contre Nice, Mopé, il a deux ballons. Bon, un, il est hors jeu, donc il est refusé logiquement. Mais l'autre, il le met au fond. Alors que contre Reims, tu dois gagner si Wally.
C'est pour ça que j'ai tendance à dire maintenant, avec le milieu que tu as, qui est un milieu qui peut jouer avec des champions, hein, je suis désolé, il te manque, je pense, un monstre devant. Voilà. Ça, c'est moi.
Et là vous pensez pas que ça va devenir un problème, Wally, parce que sur les 45 premières minutes qu'il a passé sur le terrain hier soir au Groupama Stadium,
il n'a pas été comme nous l'attendions, mais je le trouve assez malheureux. Pourtant, je ne suis pas très fan de lui, même quand la saison dernière, qu'il a fait une super saison.
Il est perdu. Mais
là, c'est vrai que moi, franchement, je l'ai vu. Il y a eu une bonne remise sur Valentin Rongier qui a failli marquer en mi-temps. Mais c'est vrai que...
Je ne doute pas qu'il plantera ses buts cette année avec nous, malgré ça.
Le problème...
Par rapport à Nil Mopé qui a été buteur et décisif la semaine dernière face à Nice.
On en revient à De Zerbi. Contre Nice, il ne le met pas, forcément, il est blessé.
Peut-être, oui, peut-être il s'était pas peu entraîné la semaine précédente.
Mais bref, il ne le met pas au Vélodrome. Parce que le premier match contre Reims, il sort sous les sifflets quand il est remplacé. Et là, à l'extérieur, il le remet pour le remettre en confiance. Malheureusement, le match n'est pas bon pour lui parce qu'à 10, tu envoies des ballons devant, des merdes de toi.
Pas les éléments
et donc, la quid de l'attaque sur le prochain match, il sera de nouveau à l'extérieur puisque ce sera un déplacement à la Meno face au Racing Club de Strasbourg.
Moi, je pense qu'il relancera Wally parce que sinon, tu risques de le perdre. Si Mopé lui prend la place, le mec, tu le mets dans le trou. Quoi.
Et c'est vrai qu'en plus, quand on voit quand même qu'ils ont déboursé une certaine somme pour le faire venir, c'est pour être titulaire et non pas dans un poste de remplaçant.
Hein. Voilà. Quoique l'entraîneur attend juste des résultats et ce qu'il attend. Voilà.
Mais c'est vrai que peut-être s'il commence à avoir quelques difficultés au cours des semaines à venir, ça risque d'être un problème.
Parce que le gars, il t'a coupé.
On sait qu'un attaquant, quand il ne trouve pas le chemin défilé, il est forcément dans le doute et ça commence à devenir compliqué.
Après, est-ce qu'il va jouer? Est-ce qu'il y a deux choses qui vont jouer pour lui? C'est déjà l'efficacité de l'équipe, parce que j'ai l'impression que tant que tu gagnes, ben même si tu n'es pas efficace, tu vas être emporté dans la vague. Ça, c'est la première.
Mais le jour où les résultats seront négatifs et qu'on ne gagnera pas, là le problème risque de ressurgir et ça risque d'être...
Pour revenir, on en a parlé tout à l'heure sur Amin Harit, quand tu as à l'équipe, ils ont montré le vestiaire où les mecs ils chantaient. Wally, il était sur la table.
Ouais, c'est vrai que on voit quand même que c'est assez paradoxal parce que parmi les ambianceurs, il y avait quand même Amin Harit qui est sorti au bout de
10 minutes,
même pas un quart d'heure et Eli Wally qui a été sorti par son coach à la mi-temps et qui est passé complètement au travers de sa sa prestation.
Et je pense que le coach, il doit essayer de le mettre en confiance. Bien C'était Cissé qui disait sur l'équipe, il disait, c'est un buteur. Si ça revient, ça revient. Et seulement, tu as peur de, à 25 millions, et tu as peur que le Vélodrome, les gens le sifflent.
Comme, il risque d'être pris en grippe, et après, voilà. Ça peut être un engrenage négatif.
On est tous Marseillais, je pense que le Vélodrome, on connaît un petit peu la chaleur du Vél, mais... Ouais.
Et on connaît aussi quand même...
Tant que tu gagnes et que tu as un résultat, ils prendront pas Hawaii quand même, je pense pas.
Non, je pense, mais... Voilà. Parce que moi, je suis en virage, hein. Je suis au virage sud, quoi. Et donc, quand il est sorti contre Reims qui s'est fait siffler, c'est plutôt les gagnés, les jambouins qui sifflaient. Ouais. Alors, les mecs te disent les touristes.
Moi, le premier, voilà. Hein. Je prends le premier contre Reims, je l'ai bien sifflé quand même.
Voilà.
Hein.
Mais
je pense qu'après, quand on voit sa prestation, c'était en partie justifié. Oui.
Moi, j'avais un copain qui me... Qui
les sifflets n'étaient pas usurpés, je pense.
Et qui me dit, ma grand-mère, elle aimait les buts. Quoi. Voilà. Mais bon, sa grand-mère les aurait pas mis, évidemment.
On va dire qu'il était mis dans les bonnes conditions jusqu'à présent.
Voilà, et c'est vrai que le match d'hier, il est un peu transparent. Quoi. Après, tu peux pas lui reprocher parce qu'il est à l'abattoir.
Non,
quoi. Il est seul devant, il a peu de ballons, il a trois mecs costauds dessus.
Il n'a pas sorti. Hein. Voilà, il aurait pu au bout de 5 minutes.
Ouais, il aurait pu, il a laissé jusqu'à la mi-temps, mais quand il a vu que voilà, il a réorganisé.
Mais c'est vrai que dans son système à une pointe, c'est vrai qu'on sait que Roberto De Zerbi est un adepte du 4-2-3-1,
Et à 10, il a fait jouer les deux ailiers un à droite, un à gauche en pointe. Il n'avait plus d'avant-centre. Et donc, tactiquement, ça s'expliquait par le contexte. Mais donc, ça te permet de le sortir en disant c'est tactique. Mais c'est vrai que c'est un vrai problème. Vu ce qu'il a coûté, comment faire pour gérer ce garçon?
Il est un peu chaud pour dire cela.
Il est jeune, oui, mais... moi qui suis un vieux
de la vieille,
je me rappelle de certains joueurs, ils ont fait un match au Vélodrome. Hein. On me parlait l'autre fois de justement.
C'est pour ça, comme je le disais précédemment, je pense que peut-être si le problème perdure, ça peut devenir compliqué pour.
Il y aura des soucis.
Pour Eli Wahi, c'est vrai que là, il est pas dans le même contexte qu'au Racing Club de Lens et à Montpellier, donc ça peut vite tourner. Et quand on connaît quand même l'exigence du public marseillais, ça risque de poser un problème.
Montpellier, il était formé à Montpellier, il venait de leur équipe. C'est un jeune. Toi, un jeune de chez toi, il fait rentrer Sternal ou Kélian Abdallah, il fait rentrer, même si le mec se rate, tout le monde l'encourage. C'est un gamin du club.
Et là, hier soir, il y avait le petit Bacola qui était sur le banc, qui a signé son premier contrat pro. Voilà.
Ce qui est une bonne chose. Mais disons que là, tu as l'inconvénient de tous ces jeunes joueurs qui s'en vont pour des grosses sommes. Tu as coûté 25 millions, tu as un gros salaire, les mecs te disent office, montre. Quoi. Voilà.
La pression du Vélodrome, on la connaît. Les joueurs viennent pour ça aussi. Ils viennent pour ça. Après, il faut, comme tu as dit, il y a des joueurs qui se sont cassés les dents.
Et surtout sur un poste d'offensif et d'attaquant. Hein. Je veux dire, quand on a vu les attaquants qui se sont succédés sous le maillot marseillais ces dernières années, on sait que c'est quand même un poste assez particulier.
Voilà, et tant qu'il est utile à l'équipe, je pense qu'il n'y aura pas de soucis. Quand les autres lui feront sentir que finalement, même s'il ne marque pas de but, qui ne sert pas à grand-chose, là, il y aura une grosse problématique. Le public sera patient.
Mais je pense qu'après, si le problème perdure, je pense que l'entraîneur Roberto De Zerbi devra s'en expliquer et se justifier auprès des journalistes. Parce que tout supporter qui est abonné et qui fréquente les tribunes du Vélodrome voudra qu'on lui rende des comptes sur la prestation et le rendement d'un joueur comme Eli Wahi.
Après, par exemple, moi je me rappelle, c'est pas vieux, quand Luis Enrique est arrivé du Brésil, annoncé comme une pépite, mais il avait coûté...
Son premier passage, tu parles.
Oui, son premier passage avant de repartir
en prêt du côté de Botafogo.
Et donc du coup, il avait... Mais enfin, les mecs disaient, alors il dribble ou pas, qu'est-ce qu'il fout, enfin. Et bon, il s'est fait un peu allumer, quoi. Mais c'était un jeune, il avait 19 ans, il arrivait. Là, il a coûté 25, il a 21 ans, il est international espoir.
Là, on parle d'un joueur qui est quand même un peu plus âgé que Luis Enrique. Oui, donc, oui, forcément, est-ce qu'on sera plus patient et plus indulgent vis-à-vis de
Eli Wahi? J'espère, parce que c'est ton intérêt. Si tu le déboîtes, le joueur...
C'est sûr, ça ne va pas le remettre en confiance. Voilà. Et je pense qu'il peut carrément disparaître assez rapidement.
Il avait fait une belle saison à Lens. Hein.
Ah, oui,
il avait bien débuté, mais après, sur la fin de saison, je pense que... ça a été plus compliqué, mais moi j'ai le souvenir notamment de la victoire au Stade Bollard face aux Gunners d'Arsenal en Ligue des Champions.
Ouais, il avait été très bon.
Il avait été très bon, il avait même été buteur pour avoir suivi le match. Je pense qu'il avait livré une grosse prestation. Donc
le seul point, c'est qu'il s'est pas joué au dos au but tant que cela, et finalement, se greffent à l'avancement.
Je pense que c'est ce qui a incité le staff marseillais a misé sur lui et à le faire venir pour
quand
succéder à Pierre-Emerick Aubameyang.
Quand tu regardes cet été, tu visais plutôt Nketiah, joueur expérimenté du championnat anglais, 25 ans, de la bouteille. Et là,
malheureusement, ça ne s'est pas fait. Il a préféré rester à Londres et opter pour Crystal Palace.
Donc, tu te retrouves avec un plus jeune. Et donc, ton intérêt, c'est pas de le tuer non plus.
Voilà. Est-ce que vous pensez que c'est peut-être un choix par défaut pour Pablo Longoria et Mehdi Benatia, l'option Eli Wahi, en sachant que la priorité, c'est quand même Eddy Nketiah, l'avancement d'Arsenal.
Ouais. Je pense qu'ils sont en train de travailler, on ne le sait pas, mais je pense qu'ils sont en train de travailler, je pense même pour le mercato d'hiver.
Oui.
Travaille tout le temps.
Un attaquant.
Là, on sait qu'il y a une rumeur qui arrive d'Angleterre concernant Mikhailo Mudryk, l'international ukrainien de Chelsea, qui joue très très peu avec Enzo Maresca et qui est vraiment rejeté complètement par le technicien italien des Blues. Donc ça peut être une option pour compenser.
Le problème, c'est que Mudryk, c'est pas le même poste. Un ailier, enfin, c'est plutôt Greenwood et Henrique, quoi. Mm. Voilà. C'est un peu ce style-là.
Donc là, si Mudryk arrive, quelle place dans le système de deux RB
Surtout que
à Strasbourg, peut-être que on changera d'avis à son
époque. Non, mais surtout que tu as Rob qui fait des bons matchs, Mopé qui peut jouer et tout. Donc je veux dire, Mudryk, vu le salaire qu'il a à Chelsea, c'est le genre de bruit.
Bon, après, on sait que c'est juste des rumeurs. Pour l'instant, on est encore loin du mercato hivernal.
Disons que c'est plutôt. Après, si tu as amené, par exemple, le prêter au Wahi pour prendre un autre joueur. Là, tu prends un gros risque parce que le mec, tu peux le.
Vous pensez que c'est envisageable se séparer d'Eli Wahi lors du mercato hivernal si jamais il réussit une mauvaise première partie de saison?
L'année prochaine, mais pas. Je pense qu'il finira la saison. Ouais. Très sincèrement, je le vois mal.
Normalement, oui, mais après le risque, c'est toujours pareil. C'est que s'il vient marquer, parce qu'à Brest, il me fait tirer le penalty, tu as 4-1, il tire le penalty, 5-1, c'est bon. S'il arrive en place Strasbourg, il en met un ou deux.
C'est ce que je dis.
Voilà, bien sûr, à ce moment-là, ça repart. Le problème, le risque.
Moi, ça me rappelle un petit peu le cas de l'ancien avant-centre espoir portugais, Vitinha, qui est parti en Italie du côté du Genoa. C'est un peu un cas similaire, identique. Je sais pas ce que vous en pensez.
À la différence, c'est que Vitinha, pour moi, il n'avait rien prouvé. Hein. Ouais. Voilà, je pense que Wahi, il y a quand même.
C'est vrai que sa situation au Portugal, Braga.
Mais Vitinha, dans les tribunes, dans les virages, il était apprécié parce qu'il se battait. Mais en fait, on disait, il est maladroit et tout. Mais c'est vrai qu'il arrivait de Braga, il était né à côté, formé à Braga, il n'avait jamais quitté le Portugal. Tu avais quand même, comme dit Sébastien, tu avais une excuse. L'autre, Montpellier, Lens, équipe de France Espoir. Bon.
Il a plus de références, donc c'est vrai que même si la combativité, c'est important dans le foot d'aujourd'hui, ça ne fait pas tout.
Mopé, il est apprécié.
Ça, c'est plutôt Mopé.
Mopé, il est apprécié, mais parce qu'il est remplaçant. Donc les gens se disent, c'est bien, il se bat, il rentre.
Dans un rôle de joker et de...
Voilà, il se bat. Là, hier, il est rentré, il a combattu pendant 30 minutes. Voilà. Mais espérons qu'il retrouvera, qu'il ait de la réussite, il met un but ou deux, ça repart, quoi. Hein, comme dit Ronaldo avec le ketchup. Hein, voilà. Mais parce que sinon, tu peux te trouver avec un problème, quoi.
Vas-y, le problème. vraiment contre Reims, il a vraiment vendangé. Ouais. Alors ouais, après, ouais, ouais, qu'il soit perdu sur le terrain, c'est pas bon. C'est un choix de il faut se repérer. Mais là, contre Reims, il a eu 3-4 ballons que vraiment, vraiment...
Il a vendangé.
Il a, ouais.
Mais moi, c'est surtout...
Après, on sait qu'on est sur un début de saison. Il n'y a oui, que 5 rencontres.
Oui, mais bon. Non, mais si tu veux, à un moment, il est décalé par Greenwood. Il est sur le côté gauche. Il repique vers le centre et il tire. Et bon, le gardien est sorti, a fermé. Moi, j'aurais pensé qu'il tente le lob parce que le gardien sort. Il arrive de côté. En fin de première mi-temps, il rate. Ça va, tu as tenté, tiens, voilà. Par contre, la frappe de Højbjerg que le goal repousse et l'action à la fin que le mec il sort sur la ligne.
Mais d'accord.
Bon, tu as le ballon, tu es à 8 mètres, même pointu, un peu pointu des familles, il est au fond, quoi.
Ouais.
Et là il a pas eu le réflexe du buteur. Et il a aussi une tête qui ne décroise pas, quoi, qui met sur le goal. Un centre, je crois que c'est Luis Enrique en première mi-temps. Poum, la tête, il a mis sur le gardien. Quoi.
Et là, c'est de la maladresse et des mauvais choix
oui,
qui font
que... Oui, ça peut être aussi...
On va pas faire un faux procès, mais le but qu'il met Lirola hier soir...
Oui.
Je sais pas si... Enfin, je veux pas faire un faux procès, mais...
Certains l'auraient pas mis.
Oui. Parce qu'il est resté quand même, surtout que c'était Tiemelin 0, c'est une balle d'égalisation.
Oui.
Tu joues à 10 et il est resté vraiment serein devant la cage. Mmh. Et le ballon piqué est magnifique.
Ouais. Ouais.
Que dire de plus?
C'est vrai qu'on ne s'attendait pas à le voir dans un rôle de buteur,
voilà,
l'Espagnol, comme ça, sur une action.
Il paraît que Garcia, il aurait raté sa place.
Non,
et bah, ça aurait lobé, j'en sais rien.
Mais
lui, en tout cas, il ne rate pas. Lui, ouais, il fait ce qu'il veut. Oui, il veut le lober, il le laisse sortir, il appelle.
Je doute de son intention véritable à Ulysse Garcia. Le résultat étant qu'il a marqué un but solide.
Il est bien lancé par Luis Enrique sur ce but qui ramène les Olympiens à un but partout.
Voilà. Et il a quand même Tagliafico qui est 30 cm derrière et qui court.
Ah oui, bien sûr.
Donc il ne faut pas paniquer,
il ne faut pas,
ouais, perdre le temps. Ouais. Le goal sort, il le lobe.
C'est vrai que quand on connaît quand même.
Voilà.
La...
Après, Lirola, c'est un joueur technique. Hein. Moi, je me rappelle l'année où il était arrivé, où il avait pris la place à droite. Il était plutôt en arrière très offensif. Il était excellent. Après, il a plongé, je ne sais pas.
Non, mais là, il a
optimisé. Non, mais c'est vrai que là il sort de deux années compliquées en Espagne. Sinon, mais avant d'arriver à l'OM, lors de son premier passage, on voit qu'il arrivait d'Italie. Il avait quand même un bon niveau. Donc,
il était à Sassuolo avec De Zerbi.
Ouais, voilà. Ben, c'est pour ça, je pense que...
Oui, ça qu'il
il le connaît bien. Je pense que c'est pour ça qu'il a eu la volonté peut-être de le conserver dans l'effectif.
Oui, c'est un mec qui ne fait pas de vagues, qui ne pose pas de problème, c'est un bon joueur.
Voilà.
Voilà. Mais enfin, on verra bien en espérant que Ouahi, tout se résolve.
On va voir.
On aura l'occasion d'en reparler lors de prochaines émissions.
Ah, oui,
et bon,
oui,
après, on se projettera sur le prochain match le déplacement à Strasbourg la semaine prochaine.
À la Méno et après le SCO d'Angers, je crois.
Et après la réception de Angers le 4 octobre au Stade Vélodrome.
Après, on va à Montpellier et après.
Et après, il y aura la trêve internationale.
Oui.
Et ensuite, ce sera la réception du Paris Saint-Germain le 27 octobre au Vélodrome.
On parle bien de mon anniversaire.
Et là, il va être
chaud. El dente por Rabiot, je crois. Il sera à point.
Voilà. Là, un calendrier intéressant et alléchant pour les Olympiens pour ce mois d'octobre. Déjà, c'est cette fin septembre et ce mois d'octobre.
Parce que
des beaux rendez-vous en perspective.
Parce que les trois matchs avant Paris, les deux déplacements, Angers, c'est chez toi, mais le déplacement à Strasbourg, le déplacement à Montpellier, c'est pas intouchable. Quoi. Voilà. Même si Strasbourg, ça joue pas mal. Mais du coup, ça te ferait un match au Vélodrome chaud de chez chaud. Quoi.
Si tu es sérieux, tu prends 6 points sur les deux prochains. Hein.
Ah, facile.
Moi, je pense.
Et après, comme le disait Sébastien, aussi, le Paris Saint-Germain, avant de se déplacer au Stade Vélodrome, aura joué des matchs de Ligue des Champions aussi dans cette nouvelle formule. Donc forcément, il y aura peut-être...
Plumes,
je ne sais pas comment Luis Enrique fera tourner son effectif. Quelle sera la gestion de l'entraîneur parisien, mais je pense que...
C'est le football, pas qu'une gestion financière, une gestion d'hommes.
Voilà,
oui, mais
parce que le fait de jouer sur les deux tableaux, entre la Ligue 1 et la Ligue des Champions, Pour le club de la capitale, ça risque d'être une équation difficile à résoudre.
Pour revenir sur ce que dit tout à l'heure Sébastien quand il parlait du match contre Gérone, moi, ce qui me frappe à Paris, c'est que leurs deux arrières latéraux, qui travaillent énormément, qui sont très bons offensivement, n'ont pas de doublure.
Non.
Il met le Brésilien Beraldo à gauche, mais c'est pas un arrière latéral. Il a mis Zaire Emery contre Gérone à droite, c'est pas un arrière latéral. Alors, les mecs font le boulot. Mais quand tu vas te taper.
Mais c'est vrai, c'est pas leur poste de prédilection, donc voilà. Forcément, c'est pas évident.
Tu vas prendre le Real, Arsenal ou des trucs comme ça, tu n'as pas intérêt
à ce qu'il y ait. Je les trouve légers quand même. Hein. Ouais.
Ah oui, je comprends pas leur recrutement. Hein.
Non.
C'est-à-dire que. Moi,
Je pense qu'il y a certains supporters parisiens qui doivent se poser pas mal de questions aussi sur début de saison. Et je pense que quand ils ont vu la prestation au Parc face à Gironde et là à l'extérieur en Ligue 1 face à Reims samedi, ils doivent quand même douter.
C'est que les premiers matchs.
Voilà. On sait que pour le PSG, il y aura la réception du Stade Rennais pour la prochaine journée samedi soir. Avant,
tu sais que Rennes, c'est leur bête noire à Rennes. Pas au parc.
Ouais. Mais là, la rencontre aura lieu à Paris et au Parc des Princes samedi soir à 21h.
Moi, ce qui me surprend, ça ne me surprend pas de Luis Enrique, hein, mais ce qui me surprend un peu, c'est qu'ils ont une équipe très jeune. Alors, moi, je pensais qu'ils auraient pris 2-3 mecs expérimentés, des vieux roquins, au milieu, des mecs. Voilà. Mmh. Danilo Pereira, il le jette, il part en Arabie, un peu, je veux dire.
À l'Ittihad.
Alors que le mec, il est.
Avec Laurent Blanc.
Il peut jouer axial, il peut jouer milieu défensif, puis c'est un ancien qui parle, qui est un leader vestiaire.
Il est quand même international portugais voilà, aussi, il a une certaine expérience. Il a joué la Ligue des Champions plusieurs années avec le FC Porto.
Ouais, il a joué pendant peut-être 10 ans qu'il la joue tous les ans.
Eux aussi ont des impondérables financiers.
Mais oui, mais si tu veux, le truc, c'est que le défenseur équatorien, la Pacho qu'ils ont pris, il est très bon, j'ai trouvé bon, bon défenseur.
Il arrive de Bundesliga, de l'Eintracht Francfort.
Il arrive de Francfort.
Il ne nous reste plus beaucoup de temps.
Ah oui, pardon.
Vas-y, termine, Patrick.
Il n'avait pas joué de Ligue des Champions jamais. Et moi, j'aurais plutôt vu un mec plus expérimenté pour compenser Marquinhos, faire deux vétérans.
Je crois qu'ils sont plus trop sur une politique de star. Hein.
Oui, mais il y en a ou deux. Mais tu peux prendre des. Moi, je pense que l'OM, le projet qu'ils ont, Højbjerg, Rabiot, deux mecs de 29 ans, des guerriers, costauds, bons techniquement. Puis les mecs, tu l'as vu hier. Tu es sous la pluie, tombe de la grêle.
Par exemple, sur Højbjerg, qui est justement fabuleux. Voilà.
C'est vrai qu'il y a juste un petit mot sur cet accueil triomphal à Marignane dans la nuit sous une pluie battante.
Imagine, Thierry, que tu as donné de l'entrée à nos supporters.
Oui.
Non, mais bon, ça, non, c'est quoi. Je pense que c'est quand même un signal fort qu'on a envoyé avec cette victoire. Puis bon, je veux dire.
Et puis on est tellement resté sur notre fin l'année dernière.
En tout cas, c'est de bon augure pour la suite de la saison. Oui. Ça demande confirmation et ça passera forcément par un résultat positif et une victoire à la Meno face au Racing Club de Strasbourg dimanche prochain pour la sixième journée.
Nous sommes par là.
Surtout que Rabiot, vu son caractère, il doit être revanchard. Donc, je ne serais pas surpris qu'il ait envie de montrer.
Il ne faut pas se précipiter.
Il ne faut pas se faire d'illusions. Il ne vient pas pour 10 ans. Hein. Il a signé 2 ans. Mais
oui, il y a eu un accord de principe sur la base de 2 ans. Donc,
Mais il se peut que dans un an, il s'en aille. Tu récupères une somme modeste, mais il s'en va. S'il a une grosse proposition, là, il ne pouvait plus jouer de Coupe d'Europe.
Et, donc, et après, je pense qu'il y a aussi l'équation équipe de France qui risque de jouer. Oui, parce que deuxième saison, ça coïncide avec la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Donc je pense que pour un joueur de 29 ans, concernant son avenir international, ça peut jouer quand même un rôle prépondérant.
Voilà, là, il est venu pour ça. Ça veut dire que le gars, il va être motivé, quoi. Il va faire, il va jouer. Et toi, c'est quand même le duo là, de milieu défensif. C'est quand même, je crois qu'en France, même Paris, ils ont des super joueurs, mais physiquement pas au même niveau.
Ah, c'est vrai que la paire de récupérateurs qui nous attend là, peut-être avec Pierre-Emile Højbjerg et Adrien Rabiot, j'ai hâte de voir ça. Ça promet énormément. 5 minutes, il nous reste. Je voulais juste vous faire réagir sur les résultats des équipes provençales en Ligue 2 et en National avec le SC Marty qui continue de s'enfoncer, qui a perdu pied une fois de plus au Vélodrome. Avec 4 pions concédés en deuxième mi-temps face à cette équipe du GF 38 et une expulsion juste avant la mi-temps pour les joueurs de Thierry Lauré. Voilà, le FC Marty qui se retrouve après 5 journées de Ligue 2 en avant-dernier.
C'est vrai,
voilà,
que les joueurs
17e
de
au classement.
N'ont toujours pas de maison pour accueillir les équipes adverses. C'est problématique de venir jouer au Vélodrome, je pense aussi. Ça ne va pas les aider pour la continuation de cette équipe.
Et là, quand on regarde l'affluence, je crois que ça a été la pire affluence de cette journée de Ligue 2, avec 500 spectateurs qui ont garni les tribunes du Vélodrome vendredi soir.
Alors, le Vélodrome avait 500... je crois que le match d'avant, ils avaient perdu 1-0.
Oui, 1-0 contre Bastia.
Voilà, c'était 2500.
Ouais, ouais. Fait... 1-0 contre Lorient lors de la première journée et 1-0 contre Bastia.
Ça fait vraiment désert. Et je pense que le stade, il est impressionnant pour des gars qui viennent de National, qui ont pas le... C'est un stand qui fait peur. Tu t'entends, ça résonne. Enfin, je veux dire, c'est space.
Et ça va durer encore quelques mois.
Jusqu'en janvier. Jusqu'en janvier où ils récupèrent Turquin. Mais soyons positifs, les féminines ont gagné.
Oui. Enfin, là, le prochain rendez-vous pour cette équipe Martégal, c'est un déplacement demain en Meurthe-et-Moselle à Saint-Symphorien du côté de Metz. Voilà, Metz qui a concédé le match nul face à Lorient, un but partout ce week-end, et qui est cinquième de ce championnat de Ligue 2.
Mais à la limite, à l'extérieur, c'est pas plus mal pour eux. Oui, parce qu'ils jouent plus.
On sait que pour l'instant, ils ont que 3 points et leur seul succès, ça a été à l'extérieur au Parc des Sports face au FC Annecy.
C'est compliqué pour eux, quoi. Après, c'est toujours le même problème. Hein. Tu regardes Lorient, tu regardes Metz, tu as quand même une base de joueurs pro expérimentés.
C'est des équipes qui évoluent en Ligue 1 la saison dernière et qui ont été reléguées.
Qui ont été reléguées, mais qui ont quand même une base. D'ailleurs, Metz, ils ne voulaient pas vendre leur capitaine arrière-gauche, la Udol, à Saint-Etienne. Saint-Etienne a voulu l'acheter, ils n'ont pas voulu. Ils ont gardé une base. Dans des moments compliqués, ça joue.
Même si c'est vrai qu'ils se sont débarrassés de leur attaquant international géorgien, Mikotadze, qui...
Ils ne pouvaient pas le garder, trop cher, trop... Voilà. Et puis lui, il ne voulait pas rester. Mais...
Qui n'était pas associé à Alexandre Lacazette hier soir. Mais bon, au passage, juste...
Tant mieux. Mais...
Oui, tant mieux. Voilà.
Mais non, mais c'est Martigues, c'est un peu inquiétant. Alors, autant au Bagne se débrouille pas trop mal.
Justement, je voulais aussi évoquer le National avec cette équipe d'Aubagne qui a concédé une défaite à domicile face à FC Sochaux 1-0 pour cette sixième journée du championnat national.
Mais c'est vrai que Sochaux, c'est un ancien club de Ligue 1. C'est un nom, tu as des joueurs.
C'est un nom, c'est des clubs mythiques.
Voilà, tu as des clubs d'expérience. Mais enfin, ils s'accrochent. Et je disais, les féminines qui ont gagné, ils sont contents.
Et cette équipe d'Aubagne qui est dirigée par Maxence Flachez, qui a joué à l'Olympique Chaunier et qui est passé par l'Olympique de Marseille au niveau du centre de formation, et actuellement donc 6e avec 8 points. Donc,
c'est un
début de saison plutôt honorable.
Ils sont à leur place, quelque part, ils peuvent aspirer à mieux.
Le prochain rendez-vous, ça sera un déplacement en Côte d'Or du côté de Dijon, vendredi soir, 19h30. Dijon qui est 9e avec 7 points et qui a gagné face à Nancy ce week-end. Donc, Nancy qui est 2e au classement. Voilà.
Ça va être encore très serré comme championnat, celui-ci.
C'est un championnat qui est dur. Et puis le National, son problème, c'est que...
On l'a vu ces dernières années.
Tu regardes les affluences, il n'y a pas grand monde. Tu es censé être pro, mais voilà, tu es à la limite, tu n'es pas vraiment pro. Et c'est un championnat qui est dur. C'est un championnat qui est dur.
Qui est très physique.
Très physique.
On l'a vu, tous les joueurs de National qui sont passés par la Ligue 1 et le monde professionnel ces dernières années. Je pense notamment, le premier exemple qui me vient à l'esprit, c'est Mathieu Valbuena qui arrivait à l'époque à l'OM en provenance de Libourne-Saint-Seurin, qui a évolué en National. Et que José Anigo était allé chercher dans ce championnat qui est si compliqué.
Et Franck Ribéry
aussi,
qui joue à Boulogne,
qui
est arrivé ensuite au FC Metz. C'est Jean Fernandez qui est allé le chercher.
Il a joué à l'AS, à l'OAC aussi.
Et c'est un championnat qui est compliqué, qui est très physique. Qui est pas payé parce que
le football amateur ça mène à tout. Il y a des pépites.
Voilà, il y a faut-il des joueurs intéressants.
Qu'elle sorte.
Voilà. Bon. Ben on arrive au terme de cette émission. Ça a été un plaisir d'avoir débattu,
partager.
D'avoir évoqué ce débrief de cet Olympico. Voilà, ben on vous souhaite une bonne semaine et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous et on reviendra sur l'actualité de l'OM, donc ce sera un déplacement en Alsace du côté de la Méno à Strasbourg dimanche soir à 20h45.
Voilà. Espérons pour le même résultat qu'hier soir. Voilà.
On signe de suite, voilà. Dès demain, pour voilà. Un succès de.
On va essayer de ne pas trop s'habituer quand même, parce qu'on va être déçus sinon.
Non, mais c'est toujours jouable. Difficile dans un championnat d'enchaîner deux déplacements consécutifs et on espère le meilleur pour cette équipe de deux herbies.
Tu as quand même un truc, c'est que maintenant tu es attendu. Les mecs, ils regardent, ils calculent à but avec Nice.
Oui, oui.
Le mec, il avait travaillé ton organisation de jeu, Francaise, entraîneur de Nice. Il avait fermé les côtés, enfin, il avait travaillé. Quoi. Il avait
travail, messieurs, vous allez avoir besoin de bien bosser.
Cette équipe strasbourgeoise qui a ramené le point du nul de Lille samedi. Donc, je pense que pour le nouveau coach alsacien, Liam Rosenior. Je pense qu'il a dû déjà analyser et se projeter sur cette rencontre après le succès de l'OM hier soir en terre lyonnaise. Voilà, ben on dit au revoir à tous nos auditeurs et on se retrouve donc lundi prochain, même heure, même endroit, à 15h.
À toutes et à tous.
Au revoir à tout le monde.
Allez, salut les gars et bonne semaine, à la semaine prochaine.
Et allez l'OM.
Allez l'OM.
Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. J'allais dire allez Lyon, c'est con.